Ah, ça y est, ça, c'est, voilà. Bon, bah, merci, merci à la vigie médiatique et informatique et numérique qui nous permet de nous connecter et de mémoriser ce qu'on fait parce que vous avez devant vous un dinosaure. Donc, en plus, dès qu'on m'apprend quelque chose en informatique, 8 jours après, j'ai oublié. Ça n'imprime pas. Donc, c'est comme ça. Bon, oui, morale et éthique, je ne sais plus si. Je vous ai fait le. Je sais que j'ai fait dans le groupe de l'après-midi, je crois, mais le groupe du soir, la distinction entre éthique et morale, je ne l'ai pas repris avec vous. Non,
Ou alors
du
ça m'a
tout.
complètement échappé, mais je crois pas,
Non,
non.
mais si ça vous a échappé, c'est que je ne l'ai pas fait, en fait. C'est bien possible.
Non, vous ne l'avez
Personne
pas
n'a ça
fait.
en tête. Bon, alors on peut commencer comme ça, parce que c'est intéressant. Alors, vous avez donné des éléments de réponse, madame, mais bon. Alors, premièrement, il existe de très nombreuses définitions, de très nombreuses, oui, définitions de distinction entre l'éthique et la morale. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Elles sont contradictoires, d'ailleurs, parfois. Donc, c'est très difficile de se caler sur une définition certaine et irrécusable de la différence entre éthique et morale. Bon, déjà, hein, si vous faites ne serait-ce qu'une petite recherche Google, vous verrez qu'il y en a, il y en a, il y en a, enfin bon, etc. Donc,
Pas trop.
il va falloir essayer d'en trouver une. Donc, je vais vous en proposer une, même plusieurs, parmi les plus connues et les plus reconnues, sans prétendre du tout à l'exhaustivité. Hein. Alors déjà, il y a le premier point, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un problème déjà dans le vocabulaire. Hein. C'est-à-dire le mot morale fait déclasser, vieillot, vieilli, obsolète. Le mot morale. Hein. Ça évoque tout de suite la morale à papa, mai 68, le paternalisme. C'est insupportable de faire l'expression de faire la morale à quelqu'un. Hein, c'est très. Vous voyez, ça ne va pas. Enfin, le mot morale ne passe plus ou passe difficilement auprès de nos contemporains. Donc, il y a déjà un problème de vocabulaire, un problème contemporain de vocabulaire. Tandis que le mot éthique passe beaucoup mieux. Alors, c'est un effet de mode, certainement, mais il ne faut pas négliger la mode, parce que le mot éthique, en fait, a remplacé, dans bien des lieux et bien des usages, le mot moral. Moi, je le date à peu près, ce serait à discuter, mais des années 90. 80, mais 90 du siècle dernier, où on s'est mis à utiliser le mot éthique pour des usages extrêmement variés. On continue à le faire. Et je n'en veux pour preuve que, par exemple, le CCNE, hein, le comité consultatif national d'éthique, qui travaille par exemple en ce moment à la question de l'euthanasie, puisque le président Macron, au moins, on réussira peut-être quelque chose s'il fait changer la loi Claeys-Leonetti. Mais, entre parenthèses, d'ailleurs, la situation est extrêmement préoccupante. J'ai jamais cru, moi, qu'on arriverait à faire bouger la loi Claeys-Leonetti, et je me suis trompé. Enfin, il est possible que je me trompe parce que ce qu'on entend actuellement est tout à fait, y compris dans la bouche du président, est tout à fait inédit et préoccupant à mes yeux. Mais enfin, vous voyez, il existe un comité consultatif national d'éthique. Personne n'a envie d'appeler ça le comité consultatif national de morale. Ça passerait pas du tout. De même, existe-t-il au niveau régional ou même local des comités d'éthique? à l'hôpital, dans les entreprises, dans certaines institutions, il y a des comités d'éthique ou des groupes de parole éthique. Personne ne ferait un groupe de parole morale. C'est fuyé, quoi. Personne ne viendra. Hein, donc, le mot s'est banalisé. Et là où on a peur de faire de la morale, on fait de l'éthique. Et maintenant, il y a des éthiques pour tout. Il y a une éthique du yoga, il y a une éthique du sport, il y a une éthique de la franc-maçonnerie, il y a une éthique de la laïcité, sûrement. Hein. Il y a des éthiques pour tout. Il y a une valse des éthiques. Donc, il est incontestable que là où le mot moral fait totalement suranné, et très péjoré, le mot éthique l'a remplacé avec un succès non démenti. Bon, il ne faut pas le négliger, c'est quand même une différence. Hein. Alors après, vous avez évoqué la différence étymologique, elle est plus précise quand même que ça. Alors, effectivement, le mot moral vient du latin mos, mores, qui veut dire les mœurs, mais les mœurs, aussi bien les mœurs dépravées de Rome que le fait d'avoir des mœurs civilisées, si vous voulez, c'est-à-dire des coutumes, des traditions. Donc, c'est aussi tout cela que recouvre le mot latin « mos mores », qui a donné « morale ». Le problème, en effet, c'est que le mot « ethos », qui est grec, lui, veut dire à peu près la même chose. Hein? D'ailleurs, on le garde en français, parfois on ne le traduit pas. Hein? On dit, quand on veut faire un peu chic, nous avons, par exemple, ce soir, dans ce groupe d'étudiants, nous avons un ethos commun. Avoir un ethos commun, ça veut dire qu'on a une culture ou des mœurs communes, des usages communs qui passent par Zoom ce soir. Et... Voilà. Alors, on pourrait affiner l'enquête, hein, tout de même. Hein. Mais c'est vrai que dans un premier temps, dans un premier usage, l'étymologie ne nous renseigne pas beaucoup sur la différence possible entre éthique et morale. Bon. Alors quoi ? Est-ce qu'on peut utiliser éthique et morale indifféremment, le mot, les deux mots ? Réfléchissez-y, à quel moment vous utilisez dans le langage courant morale ou éthique ? Vous verrez bien les usages. Moi, je vais vous proposer, en guise de distinction, au moins deux distinctions, et ces distinctions, elles sont partout présentes, elles ont le mérite d'être connues, même si elles ne font pas l'unanimité, hein, loin de là. Et pour les évoquer, je citerai Paul Ricoeur et Michel Foucault. Pourquoi Paul Ricoeur et Michel Foucault ? Parce que, en gros, ils se retrouvent, au moins sur ce... Paul Ricoeur et Michel Foucault, c'est quand même notoirement différent, mais enfin... au moins sur éthique et morale, on a des définitions qui se conjointent. Donc, ils disent à peu près la même chose, si vous voulez. Puis, c'est l'avantage que Paul Ricoeur et Michel Foucault sont des philosophes à peu près extrêmement connus et célèbres et extrêmement présents dans la culture. Donc, c'est quand même des valeurs sûres, hein, même si Michel Foucault n'était pas un père de l'Église. Mais enfin, quand même, c'est une des philosophies les plus puissantes du XXe siècle, et Ricoeur aussi, donc comme ça, on est bien. Alors, pour les deux auteurs que je viens de citer, incontestablement, la morale est du côté de la loi. De la loi et du code. C'est-à-dire que... la morale est du côté du permis et du défendu, de la transgression, de l'interdit, donc de la sanction, avec toutes les formes de lois possibles, hein, toutes les formes de lois possibles, y compris des formes plus ou moins affaiblies comme les règles, les règlements. Tout ça, ce sont des lois, hein, des lois qui définissent un cadre, qui définissent une déontologie. On parle justement du code de déontologie. Hein. Donc, vous voyez, la déontologie, au sens étymologique, le déon en grec, c'est ce qui doit se faire. Donc, la morale, c'est ce qui doit se faire ou ce qui ne doit surtout pas se faire. Voilà, mes applications sont multiples, hein, mais très banales, du type, quand vous prenez un sens interdit et que vous avez peur du gendarme, c'est parce que vous avez transgressé l'interdit. Le code de la route, il est du côté de la morale. Hein?
Pas sûr.
C'est-à-dire ?
Mais pour le juriste, il doit se garder de confondre la loi, le droit et la morale.
Ah, mais alors là,
si on entre dans d'autres...
Si vous m'attrapez sur le... Parce qu'en général, il y a... Oui, mais j'assume d'enjamber l'aspect juridique, parce que...
Vous êtes pardonné.
Non, mais j'assume de le faire, mais vous avez raison de me rattraper au collet, parce que tout juriste... D'ailleurs, si vous n'aviez pas fait la remarque, j'aurais oublié que vous êtes magistrat, parce que tout juriste, normalement, réagit à ce stade de mon exposé, comme oui. vous. En disant, oh là là, mais attendez, pour le droit, voilà. Donc, j'assume d'enjamber dans ma définition. Mais effectivement, le plus insupportable pour un juriste, c'est de confondre les plans que vous avez distingués. On est bien d'accord, hein, on est absolument d'accord. Alors, ça, c'est la morale. Enfin, alors que l'éthique... Pour les deux auteurs que j'ai cités, c'est plutôt du côté de, alors vous allez, c'est plutôt du côté de la fin ou du but de mon action. C'est-à-dire quel sens, je vais utiliser des synonymes, quel projet, quelles conséquences positives, quel avenir j'escompte à une action que je pose. Michel Foucault dit c'est l'éthique de la construction. Alors, ça serait intéressant pour le magistrat qui nous écoute, hein, parce qu'en fait, vous avez, si je veux entrer un peu plus, que je ne fais pas d'habitude, puisque vous avez cette question, il y a l'expression de Michel Foucault, c'est d'un côté ce qu'il appelle l'éthique du code, et de l'autre, l'éthique de la construction de soi. Donc, l'éthique du code a à voir avec. Ce que moi j'appelle la morale, pour faire vite, si vous voulez, c'est-à-dire code de la route, code de déontologie, etc. Mais lui, il appelle ça une éthique du code. Hein. Et l'autre éthique, c'est l'éthique de la construction de foi, magnifique lapsus, l'éthique de la construction de soi, c'est-à-dire la capacité de se projeter dans l'avenir. Hein. Olivier Abel, qui est un philosophe protestant, a une très belle définition de l'éthique, et vous verrez, donc là, pour le coup, ce n'est pas de la morale. Hein. L'éthique, dit Olivier Abel, c'est imaginer le préférable. Tout est important dans cette petite expression, imaginer le préférable. Ça, c'est l'éthique. Hein. Vous voyez, construction de soi, imagination du préférable, le sens... Quand on dit, par exemple, que les jeunes cherchent du sens et qu'il y a leur donner du sens, leur transmettre du sens, voilà, il y a c'est un projet éthique. La morale est plutôt du côté, oui, du permis, du défendu. Par exemple, on va dire que la morale du péché, hein, au sens où je vous ai dit en commençant que avant le Concile Vatican II, la morale était devenue était en pleine crise, enfin, était devenue une morale du péché. Jamais j'aurais utilisé le mot éthique du péché. Il y a sûrement une éthique du péché, mais il y a avant tout une morale du péché, vous voyez, c'est-à-dire c'est la morale des tarifs pénitentiels du Moyen-Âge, hein, où on tarifait un péché en disant on exclut le pénitent 3 semaines, 3 mois, 3 ans de la célébration. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est quand même des contenus assez différents, morale et éthique, sachant que les deux peuvent entrer en tension, hein, en tension vive, ce qu'on va appeler dans ces cas-là un conflit de conscience. Quand j'ai un conflit de conscience, il y a une tension qu'on espère féconde, mais parfois c'est paralysant, hein, entre la morale et l'éthique. Vous voyez ? Alors, ça, c'est probablement ce que je vous dis là. On retrouve à peu près cette controverse avec la notation toujours des juristes qui dit « Oh là là, quand on fait du droit, on ne fait pas de la morale. » Donc, c'est tout à fait vrai. On retrouve
Il y a un droit naturel.
Alors, il y a un droit naturel et il y a même une morale naturelle. Et vous voyez, ce qui est très intéressant dans les mots qu'on utilise ensemble, là, c'est qu'on dit il y a un droit naturel, il y a une morale naturelle, on n'a pas envie de dire il y a une éthique naturelle. Vous voyez, le mot... dans ces cas-là, quand on dit droit naturel, morale naturelle, etc., on évoque plutôt ce qui demeure. Hein. On évoque un socle, quelque chose d'intangible, un socle de référence, de valeur, etc. L'éthique, c'est quand même de l'ordre du projet et du sens. Hein. Bon, ça, c'est une définition courante. Alors, il y en a une autre, mais qu'on peut tout à fait, je vais vous l'exposer, mais elle se retourne comme un gant. On a une morale commune, mais on a une éthique singulière. J'ai une morale commune, par exemple, la morale d'un groupe. Un groupe religieux, l'Église catholique, a une morale. Quand, je ne sais pas, moi, vous êtes professeur dans l'enseignement catholique sous contrat, vous acceptez la morale de ce groupe. Il y a la morale républicaine, il y a la morale... La morale relève du collectif, hein, des repères, des usages même aussi, ou des règlements, enfin, que se donne un collectif. Mais vous dites, oh là là, il y a la morale du groupe, mais moi j'ai mon éthique.
Il y a deux étages, le général et le particulier.
Ah, il y en a même trois. Il y a le général, il y a... Mais je reviendrai sur cette affaire de particulier. Hein. Mais je continue là-dessus. Donc, la morale du groupe et l'éthique du singulier, c'est-à-dire... Si je reprends l'exemple que je donne souvent aux jeunes professeurs à qui j'enseigne aussi, c'est vous acceptez la morale de votre enseignement, de votre collège, lycée, etc., mais vous avez votre éthique de professeur. C'est-à-dire, vous enseignez les programmes communs de l'éducation nationale, mais aucun professeur dans la même discipline n'est réductible à un autre. Parce qu'en fait, l'éthique, c'est votre style. L'éthique est du côté du style singulier, alors que la morale est du côté du collectif. Troisième définition possible. Donc, vous voyez, c'était une bonne question. Hein. Troisième définition possible. La morale serait... Alors, c'est plus une... Bon, c'est une définition, mais c'est aussi un peu une question. La morale serait du côté des... La morale serait d'essence pratiquement religieuse, là où l'éthique serait séculière. Je m'explique. Séculière ou sécularisée. Quand au Parlement français, les députés, les sénateurs invitent les évêques de France pour parler de bioéthique, par exemple. D'ailleurs, on ne parlerait pas de biomorale, hein. On parle de bioéthique. Lorsqu'ils invitent, donc, nos parlementaires, invitent les évêques, le grand rabbin, etc., les représentants des cultes, si vous voulez, Alors, il y a un fond sonore qui est un petit peu dérangeant, là, je ne sais pas qui c'est, mais il y a un fond sonore qu'il faudrait pouvoir couper. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est presque une télévision qu'on entend, je ne sais pas. C'est un petit peu agaçant. Je me demande si ce n'est pas l'iPhone de Charlotte, non ? Hein, l'iPhone de Charlotte, merci, merci de couper le son parce que ça fait un. Voilà. Ça brouille un peu le. Bon. Là où j'en étais. Oui, les parlementaires, quand ils sont convoqués à l'Assemblée nationale, au Sénat, on les appelle les religieux. Hein, l'appellation officielle, c'est religieux. Qu'est-ce qu'on attend des religieux ? Qu'ils disent la morale. C'est-à-dire qu'ils disent un petit peu ce que dans les. Si dans les religions, il y a vraiment un iPhone qui est. Charlotte, je ne sais pas si vous êtes sur votre iPhone, coupez votre haut-parleur, merci. Parce que
vous devriez pouvoir le couper, en fait.
Ah, vous avez raison, mais comme je suis absolument nul, alors je peux le couper, je vais regarder. Hop, hop, hop. iPhone, j'y suis. Voilà. Discuter, épingler, nommer. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas l'air. Signaler, supprimer. Bon, enfin, le son a disparu. Oui, normalement, en fait, effectivement, je suis l'animateur, je devrais pouvoir le couper. Bon, enfin, ça a disparu. Bon, oui, lorsque les parlementaires sont invités, vous voyez, les parlementaires attendent qu'ils disent la morale, c'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il est permis, dans le culte catholique, de pratiquer l'euthanasie active ou pas ? Hein, par exemple, ou bien est-ce qu'il est permis de pratiquer le clonage, hein, ou bien est-ce que dans la morale naturelle catholique, il est permis que d'envisager un mariage entre personnes de même sexe. Bon, donc la morale serait d'essence religieuse là où nos éthiques contemporaines, surtout nos éthiques contemporaines, oui, seraient séculières ou sécularisées. C'est plus sérieux que ça. Cette définition est plus sérieuse qu'elle n'en a l'air parce que l'autre jour, je faisais cette même proposition devant des jeunes profs qui venaient de passer le CAPES et il y avait un jeune prof de philosophie qui m'a défendu, très bien d'ailleurs, l'idée qu'il n'y a de morale que religieuse. Donc je pensais qu'il soutenait sa leçon de CAPES où il m'a fait plusieurs minutes pour me défendre l'idée, oui, en effet, il n'y a de morale que religieuse. Alors, je lui ai fait remarquer que ça posait un petit problème, hein, quand même, mais il a soutenu brillamment cette idée. J'ai essayé de le contredire, mais comme il avait la fougue du jeune prof, j'ai laissé passer, mais voilà. Donc, il y aurait des morales religieuses, là où les éthiques, surtout les éthiques contemporaines, seraient sécularisées. Laïcisé, on pourrait même dire, presque en contexte français. Voilà, ça fait trois définitions possibles. La première est de loin la plus connue, et les deux autres, vous les trouvez aussi, mais encore une fois, si vous faites votre enquête personnelle, vous verrez qu'il y en a de très nombreuses autres qui se contredisent et aucune n'est complètement stabilisée. Bon, la première question pour ce soir était déjà un peu copieuse. Donc, je vous propose de ne pas en prendre une deuxième. Si, alors Béatrice, mais rapidement.
Ce n'est pas une nouvelle question, c'est une remarque. Il me semble que les deux premières définitions se rejoignent entre le côté de la loi et le côté du groupe.
Oui.
Et le côté du projet et le côté personnel.
Oui, tout à fait. On peut effectivement les rapprocher. Sans grande difficulté, oui, c'est exact.
Degré, étage à choisir.
Mais alors oui, il y a trois étages. C'est pas, est-ce que les deux étages que vous évoquiez, en fait, Xavier Thévenot, que je vous ai cité dans la bibliographie, Xavier Thévenot distinguait en fait trois étages de la décision, ce qu'il appelle les trois étages de la décision éthique. Donc on peut appeler justement là aussi la décision morale, parce que là, pour le coup, c'est à peu près la même chose. L'universel, le particulier et le singulier. L'universel, le particulier et le singulier. L'universel, c'est, vous savez, c'est la mauvaise copie du bac, en tout temps, en tout lieu, c'est ça. C'est-à-dire, quelle que soit la période, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences, le niveau il y a un niveau universel d'une décision éthique. Par exemple, c'est le décalogue. Il n'est pas permis de tuer, il n'est pas permis de mentir, il n'est pas permis de... Enfin, pour l'exprimer d'ailleurs comme ça, il n'est pas permis de... Il y a le niveau particulier de la décision, c'est-à-dire quand je décide quelque chose, je décide par exemple pour ma famille, pour mon groupe, pour mon corps de métier, c'est particulier. Et puis la décision singulière, c'est le niveau complètement personnel, intime. Au fond, c'est ce qui fait par exemple que même si j'adhère à un groupe, et que ce groupe a ses propres valeurs, un jour ou l'autre, pour telle situation, je vais prendre une décision différente pour moi, à un moment précis du temps. Donc la décision, quelle que soit la décision éthique, elle consulte toujours ces trois niveaux, l'universel, le particulier et le singulier. Bon. Je vous propose alors je vous avais laissé la dernière fois sur, je crois, la question de... J'annonçais la question de la théorie des quatre sens de l'écriture, c'est ça? J'en étais là aussi avec votre groupe, parce qu'en principe, je crois que je suis à peu près au même... J'avance à peu près à la même vitesse l'après-midi et le soir. La théorie des quatre sens de l'écriture, pourquoi j'en parle? Parce que c'est une façon de...
Ça a toujours quatre sens.
Oui, c'est ça. C'est une façon de synthétiser un peu ce que je vous disais sur la morale chez les pères de l'Église. Alors, la théorie des quatre sens de l'écriture, on la doit à Origène. Elle a été complètement banalisée par les pères et à l'époque médiévale. Et donc, effectivement... comme vous venez de le dire, cette théorie énonce la réalité suivante: tout texte de la Sainte Écriture possède quatre sens. Quand je dis tout texte, c'est-à-dire ça peut être un livre entier, un chapitre entier, un morceau de chapitre, trois phrases, une phrase, un bout de phrase. Tout, quel que soit le genre du texte, les béatitudes, un psaume, un récit de guerre, une prophétie, un texte de sagesse, l'Apocalypse, tous les textes, Ancien, Nouveau Testament, n'importe quel texte a quatre sens. Vous pouvez, je disais au groupe cet après-midi, votre prochaine retraite spirituelle, vous la faites avec votre Bible et puis vous prenez n'importe quel livre de l'Écriture et vous vous intéressez aux quatre sens que contiennent n'importe quelle phrase ou verset ou que vous lirez. Alors, quels sont ces quatre sens? Il y a le sens historique, le sens spirituel, le sens moral, le voilà, et le sens eschatologique. Bon, le sens historique, ça va de soi, c'est-à-dire, on va reprendre les mêmes exemples, un récit de guerre n'est pas... Si vous lisez un récit de guerre, quelle guerre? Quels sont les belligérants? Pourquoi? Qui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la date? Qui a remporté la guerre? Bon, contexte historique. Sens spirituel. Ça veut dire que tout verset de l'Écriture doit nourrir votre vie spirituelle, c'est-à-dire votre relation à Dieu et au Christ en particulier. Alors, sens spirituel, vous voyez, si je prends les béatitudes, ça paraît évident. Mais si je prends un récit de guerre dans l'Ancien Testament, va falloir chercher un peu plus. Hein. Quel va être le sens spirituel d'un récit de guerre? Il faut trouver, parce qu'il n'existe pas un seul texte de l'Écriture sainte qui n'ait pas quatre sens. Historique, spirituel, moral, c'est-à-dire en effet tout verset de l'Écriture doit nous renseigner sur le comportement du chrétien. D'ailleurs, dans la théorie des quatre sens, on parle plutôt du sens moral, hein, pas du sens éthique, c'est-à-dire c'est plutôt la morale au sens de ce que je dois faire ou ne pas faire. C'est-à-dire, au fond, comment guider mon chemin ici-bas et quels repères, quels moraux je peux me donner, quelle rectitude du comportement, hein, le sens moral. Et puis le quatrième sens, c'est le sens eschatologique, c'est-à-dire tout texte de l'Écriture me projette vers le royaume qui vient, me dit quelque chose, me révèle un aspect du royaume qui vient. C'est important, hein, tout texte a quatre sens. Vous voyez bien que le sens moral est un sens parmi les quatre, ni plus ni moins. Et je trouve intéressant de vous le dire parce que, si vous vous souvenez de mon propos la dernière fois, j'essayais de vous dire que pour les pères de l'Église, la théologie est unifiée. Unifiée, c'est un acte unique fondé sur le commentaire de l'Écriture, toujours, et sur, enfin toujours, le plus souvent, et sur la... et c'est dans le cadre d'une théologie prêchée. Les textes moraux des pères de l'Église, c'est de la théologie prêchée, c'est-à-dire c'est le père abbé qui parle à sa communauté, c'est l'évêque qui enseigne à ses diocésains, c'est une théologie communiquée, fondée sur le commentaire de la Sainte Écriture. Et dans le cadre de cette théologie unique, en effet, il y a des aspects moraux, de même que lorsqu'ils commentent l'Écriture, pour les pères, le sens moral d'un texte, c'est de l'Écriture, c'est un sens parmi les quatre. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de la morale chrétienne sans vous soucier de l'histoire, c'est connexe, sans vous soucier de la spiritualité, c'est connexe, et sans vous soucier du royaume annoncé par le texte. Vous voyez, c'est pour un chrétien, ça n'a pas de sens de s'interroger sur sa vie morale sans s'interroger sur sa vie spirituelle, ni sans s'interroger sur en quoi ma vie morale fait advenir le royaume ou pas, ou empêche le royaume d'advenir, ça il faut se lever de bonne heure, mais quand même, permet au royaume d'advenir, d'accord ? Vous voyez, le sens moral, c'est un sens connexe aux autres, ni plus ni moins. On ne peut pas isoler la morale du reste de la théologie qui est un acte unique chez les pères. Pour moi, ça n'aurait aucun sens d'organiser un cours de théologie morale pour un père de l'Église. Il n'y a pas de théologie morale, il y a de la théologie, c'est tout. C'est-à-dire qu'on commente l'Écriture et on communique ce que l'on a commenté. On communique ce que l'on a commenté, on peut dire ça comme ça, oui. Donc oui, il y a des thèmes moraux chez les pères, ils parlent de la chasteté, de la virginité, de la persécution, abondamment, puisque c'est une morale de combat, ils parlent du don de soi, de la générosité, de la vocation, il y a des thèmes économiques, etc., ils parlent des pauvres, etc., vous voyez, mais ces thèmes moraux n'ont de sens que on ne peut pas isoler, si vous voulez, une branche de la théologie qui serait de la théologie morale. Ça n'existe pas chez les pères. Ça va. Alors, ce n'est pas inutile d'entendre parler de la théorie des quatre sens de l'écriture parce qu'elle a vraiment irrigué toute la théologie ancienne. Donc, vous pouvez vous en servir comme moraliste, mais tout bon exégète a entendu parler de la théologie de la théorie des quatre sens de l'écriture. Hein. Alors, les exégètes contemporains, ils vous diront que c'est de l'exégèse d'autrefois. Hein, mais il y a un sens historique. Hein. Premier sens, il est historique. Bon. Alors, la théologie, enfin les pères de l'Église, je vous ai dit, je ne sais plus si à vous que je l'ai dit d'ailleurs, que la période des pères de l'Église se termine, traditionnellement on dit ça, avec saint Isidore de Séville, qui est le dernier père de l'Église. S'ouvre après Isidore, prénom d'ailleurs trop peu usité, c'est un joke, s'ouvre après Isidore la théologie finalement médiévale. Hein. La théologie médiévale, elle a comme référence principale dans l'Église catholique celui qui est devenu le théologien le plus connu de l'Église catholique, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin. Ce qui nous porte quand même au XIIIe siècle, hein, saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin c'est pas lui, certainement pas lui qui l'a mis en place, mais on va dire qu'il a vulgarisé au bon sens du terme ce qu'on appelle la théologie scolastique. Alors, scolastique, vous pouvez l'écrire S-C-O ou bien S-C-H-O. De toute façon, ça vient du latin scola qui veut dire école. Alors, il faut bien se dire que la théologie scolastique, il y a des Parisiens, je ne sais plus parmi vous, hein, il suffit d'aller devant la Sorbonne, et puis place de la Sorbonne, et de contempler les saints qui sont là, Albert le Grand, etc., hein, pour se dire que la théologie à l'époque médiévale, c'est une théologie qui devient universitaire. C'est une théologie de professeur. Ça n'est plus du tout la théologie des pères de l'Église, hein, ces grands érudits, ces grands savants qui commentent l'Écriture, qui prêchent à leur communauté, etc. Là, on a affaire à une autre forme de grands savants. Vous savez, c'est la naissance, en France, d'ailleurs en Europe, hein, c'est la naissance de l'université, telle qu'on la connaît encore maintenant, la structuration de l'université, et enseigne dans les universités les religieux, les clercs, en particulier à l'époque médiévale, les ordres mendiants, hein, les dominicains, par exemple. Albert le Grand était dominicain, Thomas d'Aquin était dominicain, etc. Bon, et les jésuites plus tard, bon, mais beaucoup les dominicains. Alors, les franciscains. La théologie devient une théologie universitaire, intellectuelle, savante et surtout rationalisée. Rationalisée, c'est-à-dire que la place de la raison en théologie devient énorme, devient même, oui, devient très très important. La place de la raison, la rationalité théologique. Comment peut-on, alors, je vous ai dit, hein, chez les pères de l'Église, je prends de l'expression de saint Augustin lui-même, puisque chez les pères latins, le plus connu, c'est sans doute saint Augustin. Chez saint Augustin, l'homme est en chemin, en latin, c'est in via. Ce n'est pas pour faire chic que je cite en latin, c'est parce qu'on a les mots comme ça chez Augustin, hein. In via, il est en chemin vers le royaume. La morale chez saint Thomas d'Aquin, c'est justement la question du chemin. Nous sommes en chemin vers le royaume. Donc la morale répond à la question « comment je chemine vers le royaume ?» Le royaume, les expressions utilisées par saint Augustin, c'est le royaume, c'est le port, dit-il. C'est, vous savez, on va accoster au port, on est dans un voyage, en bateau, le Christ gouverne, comme dans l'Évangile, la barque, n'est-ce pas? Et nous accosterons un jour au port céleste. Puis là, une deuxième image pour décrire le chemin, c'est évidemment la patrie. Nous allons atteindre la patrie céleste. Nous sommes en chemin vers la patrie du ciel. Le temps du chemin, c'est le temps de la morale. Ça, c'est saint Augustin. Pour le redire avec les mots des pères grecs, ou même des mots de saint Irénée de Lyon, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le péché originel nous a fait perdre la ressemblance. Le but de la morale, c'est d'une certaine manière de retrouver cette ressemblance. Alors, cette ressemblance, on ne la trouvera vraiment que dans le royaume des cieux. Mais mener une vie morale, c'est essayer de... au moins de lutter contre le péché qui nous fait perdre la ressemblance, alors que, disent les pères, on ne perd jamais l'image. Même le pire des pécheurs, le plus atroce des pécheurs, est toujours, même au fond de son péché, image de Dieu. Mais la question de la ressemblance perdue, c'est la question de la morale. Et encore une fois, que ce soit, non, là, voyez, le chemin et le royaume, ce sont c'est-à-dire l'image du port ou l'image de la patrie, c'est vraiment saint Augustin. Chez les pères grecs, chez saint Irénée de Lyon, on a beaucoup la question, c'est qu'à de le dire, l'image et la ressemblance perdue. Mais dans les deux cas, il s'agit de morale métaphysique, de perspective métaphysique, c'est-à-dire en fait, on pourrait le formuler avec les mots de Job. De mes yeux de chair, je verrai mon Rédempteur. C'est-à-dire que la morale dont il s'agit, le chemin dont il s'agit, c'est un chemin métaphysique, qui nous mène vers le royaume. Même chose, on a perdu l'image, nous ressemblerons vraiment. Comme le dit d'ailleurs l'Écriture, nous serons à son image. Enfin, nous allons, voilà, c'est ça qu'on l'on. Ou pour le dire autrement, la nouvelle création, la création des cieux, sera plus belle que la première création perdue par le péché. Bon, ce qui fait dire aux théologiens que chez les pères de l'Église, et c'est le grand point commun avec saint Thomas d'Aquin, la morale dont il s'agit, la morale chrétienne, la morale des pères ou la morale de saint Thomas, le grand point commun, c'est que ce sont des morales du bonheur. Ce que l'on appelle, avec un mot grec, le démonisme. Eudémonisme. La morale chrétienne, c'est un eudémonisme chrétien. C'est important de le dire, parce qu'on peut avoir dans la vie, vous avez des gens qui vivent avec des théories morales ou des options morales qui n'ont rien à voir avec le bonheur, parce qu'ils considèrent que le bonheur n'est pas accessible, que le bonheur, c'est une création de l'imaginaire, que la vie... La vie humaine est une question d'absurde, je ne sais pas moi, Samuel Beckett ou d'autres, n'est-ce pas, la vie est absurde. Donc, il n'est pas question d'avoir une morale du bonheur, la vie est absurde. Ou bien, il y a trop de souffrance ici-bas, et donc, prêcher le bonheur, c'est bon pour les cathos, etc. Donc, on peut très bien avoir une vie morale en bonne et due forme sans que ce soit une morale du bonheur. De même, on peut aussi très bien concevoir le bonheur comme une réalité sans Dieu. On peut se dire qu'on peut être heureux sur cette terre et qu'on n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu pour être heureux. Mais ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens défendent l'idée d'un bonheur, propagent l'idée d'un bonheur qui est un bonheur en Dieu, c'est-à-dire le bonheur en Dieu, c'est une morale béatifique, une morale de la béatitude. La béatitude, ce n'est pas simplement être béat au sens de l'adjectif être béat. La béatitude, c'est le premier mot en latin dans la Vulgate pour les béatitudes, béati, les bienheureux. Quand on dit d'une femme ou d'un homme qui l'Église le reconnaît bienheureux ou bienheureuse, comme aujourd'hui c'est Marie de l'Incarnation, ça veut dire il est bienheureux ou elle est bienheureuse en Dieu, c'est le bonheur en Dieu. Elle ou il a atteint le royaume. Donc nous essayons de vivre une morale du bonheur en Dieu, ce que les médiévaux appellent la vision béatifique. La vision, visio, béatifique. De mes yeux de chair, je verrai mon Rédempteur vivant. Donc, c'est une morale du bonheur, du bonheur métaphysique. C'est ça, notre morale. Alors, les pères de l'Église, je vous ai donné quelques repères, sur les pères. Le chemin, la patrie, ou le chemin, le port. L'image, la ressemblance. Chez saint Thomas d'Aquin, on a aussi on est complètement dans une morale du bonheur en Dieu, mais ça va être structuré d'une manière très différente de chez les pères de l'Église. La théologie médiévale, et en particulier la théologie de saint Thomas d'Aquin, puisque saint Thomas représente l'acmé de la théologie médiévale, pour le dire comme ça, propose une théologie, et en particulier une théologie morale, très différente dans son organisation, dans sa mise en place, oui, dans ses concepts aussi, pour une part, de la théologie des pères de l'Église. Mais dans les deux cas, on a bien affaire à une forme d'eunémonisme, ce sont des morales du bonheur en Dieu, mais ce n'est pas organisé de la même manière. Est-ce que vous me suivez à peu près ? Voyez, on ne fait jamais que de la théologie morale. Ne faites jamais confiance aux moralistes. Parce que les moralistes ont toujours la tentation de rabattre la morale sur elle-même. Quand on est chrétien, ça n'a aucun sens. La morale n'a de sens que dans un projet métaphysique de bonheur en Dieu. La morale, ça n'est que le chemin. Vous me direz, c'est très important parce qu'il ne faut pas se tromper de chemin, on est bien d'accord. Mais le but, c'est la contemplation, la vision du Rédempteur. D'ailleurs, c'est très beau cette affaire de vision parce que béatifique, saint Thomas lui-même d'Aquin dit en fait « Notre regard n'épuisera jamais la vision ». C'est-à-dire, on ne sera jamais fatigué de contempler le mystère de Dieu. C'est pas facile de se représenter, évidemment, on ne peut pas se représenter tout ça, mais c'est, voilà. Alors, on va faire la pause, mais quand je vous dis que saint Thomas d'Aquin utilise une théologie qui est complètement différente, je vous ai dit d'ailleurs que cette théologie s'appelait la théologie scolastique. Bon, théologie universitaire, théologie savante, théologie enseignée par des clercs, qui fait une large place, beaucoup plus qu'avant, à la rationalité critique. Comment peut-on définir la théologie scolastique utilisée par saint Thomas d'Aquin? Je répète 36 fois la même chose parce que je trouve que la pédagogie est une œuvre de répétition, donc j'ai la faiblesse de croire que ça marche mieux comme ça. Donc la théologie scolastique, repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le dossier contradictoire. Alors, le dossier contradictoire, c'est extrêmement simple, puisqu'il y a les épreuves du nouveau bac en ce moment. Le dossier contradictoire, c'est thèse, antithèse, synthèse. Vous savez, c'est ce qu'on a dû faire en passant le bac et peut-être un peu après. Thèse, antithèse, synthèse. Cette façon de faire est un lointain héritage de la théologie scolastique où il s'agit de constituer, dès qu'on fait de la théologie, un dossier avec... alors, je donne un exemple. En théologie morale, est-il permis d'avoir des relations hors mariage? Alors, des relations sexuelles hors mariage, aujourd'hui, on dirait, est-il permis d'utiliser la pilule contraceptive? Je dis ça parce qu'aux États-Unis, ils sont en train de la contester et puis même peut-être de la retirer. Et elle est plus ou moins temporairement maintenue pour l'instant. Alors, est-il permis d'utiliser la pilule RU486? Si vous faites un dossier contradictoire, vous allez dire dans un premier temps oui, et puis vous allez donner tous les arguments qui vous font dire que c'est possible de le faire. Après, vous allez faire non, c'est-à-dire vous allez donner tous les arguments qui vont essayer de convaincre qu'on ne peut pas utiliser cette pilule. Et dans un troisième temps, vous allez conclure. C'est-à-dire, vous donnez, saint Thomas appelle ça des solutions. Vous donnez des solutions et puis vous tranchez pour dire oui, non, on ne peut pas utiliser, oui ou non, on ne peut pas utiliser la pilule RU486. C'est ce qu'on appelle le dossier contradictoire. En latin, ça s'appelle, peu importe, d'ailleurs, on s'en fiche, mais si jamais vous voulez ouvrir la somme de théologie, le sic et non, oui et non. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose, la somme de théologie, parce que là, tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est noir sur blanc dans la somme de théologie, mais saint Thomas a écrit bien des œuvres, bon, c'est une banalité totale de dire ça, mais a écrit bien des œuvres. La somme de théologie est le texte le plus connu, et figurez-vous que c'était une œuvre pour débutants. Donc, pour des gens comme vous, la somme de théologie, c'était pour les grands débutants. Alors, maintenant que je vous ai dit que c'était pour les grands débutants, ne bougez pas, je vais chercher la somme de théologie. Vous voyez, pour les débutants, première année de théologie, il y a 4 volumes comme ça. 4. Je sais pas, vous avez déjà regardé la somme de théologie? Bon, ça, c'est une traduction qui date du début des années 80. Il y en a une autre après, mais je ne l'ai pas. Il y a 4 volumes comme ça. Pour les débutants. Moi, quand j'étais débutant en théologie, la première fois que j'ai ouvert la somme de théologie, je n'ai rien compris. Donc, il ne faut pas s'affoler. C'est un monde de... Enfin, le vocabulaire est différent, c'est très dépaysant. Pour lire la somme de théologie, il vaut mieux être accompagné et puis après prendre de bonnes vacances. Mais il y a 4 volumes comme ça. Bon. Et c'était censé être pour les débutants. Je ne vous dis pas aujourd'hui. Alors, la première caractéristique de la théologie scolastique, c'est donc le dossier contradictoire. Je vais vous en montrer un. Si vous avez de la chance par rapport aux gens de l'après-midi, comme on est en distanciel, j'ai le matériel, je n'ai pas besoin de... Alors, je vais vous en montrer un. Voilà une question morale, tiens. Les préceptes évangéliques concernant la justice. Bon, la justice, c'est une vertu. Jusque-là, ça va, on me suit. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais je vous montre. c'est la page de droite, là, les préceptes de, et là vous avez, je ne peux pas faire 36 choses en même temps, vous avez un dossier contradictoire à droite, hein, c'est-à-dire, attendez voir, ouais, alors c'est traduit en français, question, hein, vous avez l'article 1, je pense, question et ensuite réponse. Bon, c'est un dossier contradictoire et alors toute la somme de théologie est construite comme ça. Ça n'a plus rien à voir avec les pères de l'Église, hein, où on commente l'Écriture, on prêche à sa communauté. Vous voyez, on est dans une théologie savante. Deuxième caractéristique, puis on fait la pause, deuxième caractéristique de la théologie scolastique, la question des autorités. C'est-à-dire que le théologien scolastique travaille avec des autorités, auctoritates en latin. Les autorités, c'est-à-dire qui va me permettre de fonder mon argumentation. Alors, il y a deux autorités pour saint Thomas d'Aquin. La première, c'est la Bible. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est quand même la révélation. Et la deuxième autorité, ce sont les philosophes, les grands philosophes et les pères. Donc, les pères, ça peut être saint Augustin, saint Jérôme, saint Jean Damascène, saint Jean Chrysostome. Et les philosophes, alors, le plus connu d'entre eux, c'est celui que saint Thomas appelle le philosophe, avec une majuscule. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de qui peut être le philosophe avec une majuscule. Eh bien, c'est Aristote. C'est Aristote, puisque ce n'est pas Michel Onfray, hein. C'est Aristote, parce qu'il se trouvait qu'on a redécouvert les textes d'Aristote à ce moment-là, et donc Aristote était la star du moment. Et vous avez également Platon, Plotin, les néo-platoniciens, voilà. Autrement dit, les autorités que vont utiliser... que va utiliser saint Thomas, c'est donc la Bible et puis les pères et les philosophes. C'est un petit peu curieux, et ça a été très remarqué, parce que dans les dossiers contradictoires, saint Thomas d'Aquin a tendance à mettre la Bible et les philosophes au même niveau. Ce qui est, c'est-à-dire la source révélée, et puis des païens quand même, hein. Même niveau. Ça a été très remarqué et très critiqué. Donc, une théologie scolastique en bonne et due forme, c'est une théologie, encore une fois, qui travaille par le dossier contradictoire et qui s'appuie sur les auteurs que j'ai cités. À partir de là, vous pouvez traiter n'importe quelle question de théologie. Et nous allons, après la pause, voir où est la théologie morale et ce qu'il y a, les contenus de la théologie morale de saint Thomas d'Aquin, juste après la pause de 5 bonnes minutes. Voilà, donc à tout de suite.
Voilà, on va arrêter la vidéo. Non, c'est pas un encre sèche. J'ai dû ramasser un. Tu sais, ouais. Dans le papier, j'ai dû ramasser un cheveu. Alors, j'arrivais plus à écrire. Pour le. Tu regardes, t'as vu
ça, oui, c'est tout éclairci.
Voilà. Ce qui est bien.
Coupez le son de vos micros, sinon on entend à peu près tout. Hein. Merci. Je vous propose de reprendre tranquillement, doucement, mais sûrement. Bon. Voilà, tout le monde est là à peu près. Sœur Philomène est là, tout le monde est là, voilà, c'est bien. Pop, pop. Bon, donc, on continue. La somme de théologie est structurée en trois parties. Et je dis ça, ça va devenir intéressant parce que vous allez voir comment, où est la morale dans tout ça, la morale de l'histoire, si je puis dire. La première partie de la somme de théologie s'intéresse à Dieu, au mystère de Dieu un et trinitaire. Cette première partie consacrée à Dieu, un et trinitaire, est subdivisé en deux sous-parties. Et la deuxième sous-partie, traite de la fin de l'homme. La fin de l'homme, c'est-à-dire, comprenez la fin, c'est-à-dire la vie en Dieu, hein, la fin de l'espèce humaine en Dieu, dans le royaume. C'est-à-dire, quel est le but de la vie humaine? C'est de cheminer vers le royaume. Autrement dit, là, dans cette deuxième sous-partie de la première partie, on retrouve les grands thèmes des Pères de l'Église. Hein, nous sommes en chemin vers le royaume. Et dans cette deuxième partie, cette deuxième sous-partie de la première partie, Saint Thomas se met à parler des actes humains en général. C'est-à-dire, vous avez là vraiment déjà des développements moraux en bonne et due forme, puisqu'il s'agit de la description des actes humains en général. La deuxième partie de la somme de théologie. Alors, la deuxième partie, c'est si on veut trouver la partie morale, spécifiquement morale de la somme de théologie, c'est la deuxième partie, dans laquelle saint Thomas parle des actes humains en particulier. Bon, je fais un peu vite parce que le but n'est pas de commenter le plan de la somme dans les détails, mais de présenter les grandes lignes. Et la troisième partie de la somme concerne le Christ et les sacrements. Le Christ et les sacrements. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que saint Thomas d'Aquin est mort sans avoir terminé la somme de théologie. C'est une œuvre inachevée. Saint Thomas est mort sur le chemin du Concile de Lyon sans avoir terminé la somme de théologie, qui est amputée d'un... peut-être que vous allez trouver vous-même d'ailleurs. Qu'est-ce qui n'a pas été abordé dans la somme ?
L'Esprit Saint ?
Non, pas tout à fait. C'est bien vu parce que C'est bien vu parce qu'effectivement, c'est un des reproches adressés à la somme. Enfin, la première partie, si je dis Dieu a et trine, c'est qu'il est quand même question un peu de la troisième personne de la Trinité. Mais vous avez raison, ça pourrait être plus développé. Mais il y a un autre point important de théologie, finalement, qui n'est pas abordé dans la somme de théologie et qu'il aurait dû aborder s'il avait eu le temps de terminer, ben c'est l'Église. Il n'y a pas de traité sur l'Église. Alors, il parle de l'Église dans la somme, si vous voulez, donc on peut trouver des choses sur l'Église, mais il n'y a pas de traité constitué sur l'Église. Et même sur les sacrements, tout n'est pas terminé, en fait. Alors, attention quand on dit que la deuxième partie, c'est la partie morale. C'est vrai, parce qu'il est question des actes humains, mais il faut bien voir que les trois parties de la somme sont des parties dynamiques, c'est-à-dire on a pu comparer la somme de théologie à une cathédrale spéculative. Une cathédrale spéculative, si vous pensez à vos cathédrales préférées, d'abord une cathédrale ça brûle, c'est-à-dire que et ça se casse la figure. C'est-à-dire que si vous, on ne peut pas détacher ce qu'on, quand on prend l'image de la cathédrale spéculative. Hein, d'abord, ça veut dire qu'on admire. Alors, c'est superbe, c'est la somme de théologie a été présentée comme la synthèse la plus réussie entre la foi et la raison de tous les temps. Synthèse parfaite, l'équilibre parfait entre la foi et la raison. On a donc comparé ça à une cathédrale, mais une cathédrale, si vous lui retirez quelque chose, elle tombe. Elle n'a de sens, la nef n'a de sens que par rapport au cœur, qui n'a de sens que par rapport au bas-côté, qui n'a de sens que par rapport, etc. Tout se répond dans une cathédrale. C'est pareil dans la somme de théologie. Donc, on peut isoler, par commodité, si vous voulez, une partie morale, ou même deux parties, hein, donc ce qu'on appelle la deuxième partie, donc la segunda, on dit en latin, segunda pars, la segunda pars, la deuxième partie, effectivement, c'est la partie morale, mais on a déjà quelque chose dans la deuxième sous-partie de la première partie, d'accord. Mais attention, avant la morale, saint Thomas d'Aquin parle du Dieu à Étrine, et après, il parle du Christ et des sacrements. Et ça fait trois parties dynamiques. Ça veut dire que vous ne pouvez pas isoler la théologie morale du reste. Vous ne pouvez pas plus que chez les pères. Vous ne pouvez pas faire de la morale sans parler du mystère de Dieu, et en particulier du mystère de Jésus-Christ sauveur, et des sacrements, et de la fin de la vie humaine, qui est la vision béatifique. Donc, pas plus que chez les pères de l'Église, vous ne pouvez séparer la théologie, la vie morale de la suite du Christ. Je fais quand même quelques remarques sur le plan de la somme, même si je ne veux pas m'appesantir là-dessus, mais vous voyez qu'il y a des choses étranges, hein, dans la somme de théologie. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de traité sur l'Église, mais il est mort avant. Ça s'explique facilement. Mais il y a une autre chose très bizarre. Trois parties. Où est le Christ ? Allez-y.
À la fin.
Oui. Seulement à la fin. Seulement à la fin. Oui, exactement. Seulement à la fin. C'est-à-dire qu'on a le plus grand traité de théologie, la théologie médiévale, et saint Thomas d'Aquin parle du Christ à la fin. C'est quand même absolument dingue, non ?
Il ne connaissait pas saint Jean.
Pardon ?
Il ne connaissait pas saint Jean.
Alors voilà, Et il ne connaissait ni Saint Jean, enfin s'il connaissait bien Saint Jean, mais effectivement, ni les pères de l'Église qui commandent Saint Jean, puisque les pères de l'Église ont passé leur temps d'abord à commenter le Christ, à prêcher le Christ. C'est-à-dire, le message des pères de l'Église, c'est avant tout le message de l'originalité chrétienne. Et l'originalité chrétienne, pour c'est un pléonasme, c'est le Christ. Alors que chez saint Thomas d'Aquin, là, c'est seulement dans la tertia pars, la troisième partie, qu'est abordée la question du Christ. Avant le Christ, il parle de la morale. Et avant la morale, il parle du Dieu, du mystère de Dieu. Alors,
il dit
trinitaire, absolument. Il dit trinitaire, mais la deuxième personne de la Trinité, elle se retrouve à la fin. C'est-à-dire la médiation universelle. Chez saint Paul, n'est-ce pas, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais saint Thomas d'Aquin arrive à parler du Christ à la troisième partie. Ça n'est pas très gênant si on se dit que ce ne sont pas des parties chronologiques et qu'il n'y a pas une partie plus importante que l'autre. Mais tout de même. Mais c'est très intéressant pour le théologien moraliste parce que ça veut dire que vous pouvez parler avec les autres croyants ou même avec les incroyants de morale avant même de parler du Christ. C'est-à-dire que le fait que la spécificité chrétienne, c'est-à-dire le Christ, soit seulement traité dans la troisième partie, bien vous pouvez parler avec les non-croyants ou avec d'autres croyants du mystère de Dieu sans parler du Christ, et même des valeurs morales sans parler du Christ. C'est-à-dire, il y a un pont possible entre les incroyants et nous, ou entre d'autres croyances religieuses et nous. Parce que ce n'est qu'à la fin de la somme de théologie qu'il aborde Jésus-Christ. Cela dit, bon, là, je vous fais la version la plus optimiste, mais la présence seulement dans la troisième partie de la Christologie, du traité de Christologie, a été beaucoup remarquée et critiquée par certains théologiens non thomistes. En tout cas, c'est impensable pour les pères de l'Église, ça.
Mais c'est évident, vu qu'il s'appuie sur les philosophes aussi, sur Aristote et les autres.
Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est le cas de le dire, c'est le problème de la raison. Enfin, c'est le problème. C'est la note particulière de la raison, c'est-à-dire que c'est une théologie plus rationnelle et qui fait droit davantage aux philosophes, alors certes aussi à la Bible, bien entendu, certes aussi au Père de l'Église, bien entendu, mais plus aux philosophes que... les pères de l'Église, qui étaient d'abord des commentateurs de l'Écriture et des prédicateurs. Hein, voici une originalité. Alors, mais si dans ce cheminement tripartite de la somme de théologie, on veut vraiment isoler une partie morale, ce sera plutôt la deuxième partie, la segunda pars, dans laquelle il parle des actes humains. Comment définir un acte humain? Un acte humain, dit saint Thomas, c'est un acte vertueux. Acte humain et acte vertueux, c'est la même chose, dit-il. Acte humain et acte vertueux, c'est la même chose. Alors, sous-pesez bien ce que je vais dire. Saint Thomas d'Aquin distingue les actes humains des actes de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous posez un acte, par exemple, vous vérifiez 36 fois si vous avez fermé la porte de chez vous avant de sortir. C'est un acte de l'homme, au sens où vous êtes poussé par un rite de vérification, d'accord, et c'est évidemment vous, comme homme ou comme femme, qui fait la vérification 36 fois de fermer la porte du coffre de la voiture ou la porte de chez vous. C'est un acte de l'homme, on est d'accord. C'est un acte posé par la personne humaine que vous êtes. Mais saint Thomas dira, ça n'est pas un acte humain, parce qu'un acte humain, c'est un acte qui engage votre liberté, votre volonté et votre raison. Autrement dit, un acte humain, pour prendre un vocabulaire très contemporain, c'est un acte où on reconnaît l'humanité de l'homme. L'humanité de l'homme. Vous voyez, si on prend cette expression qui est de philosophie contemporaine, qu'on trouverait par exemple chez Hannah Arendt, un acte humain, c'est l'acte de... pour parler aux magistrats, les tribunaux jugent les actes humains, mais jugent aussi des actes de l'homme. C'est la question de la responsabilité de quelqu'un qui, par exemple, est reconnu irresponsable de ses actes. La personne qui reconnue...
Personnelle.
Pardon ?
Responsabilité personnelle.
Personnelle, absolument. Responsabilité personnelle, où, par exemple, on reconnaît que le psychotique paranoïaque qui a mis le feu à 10 appartements autour de chez lui, parce que, comme tout paranoïaque, il a des problèmes de voisinage, eh bien, sa paranoïa, c'est un acte de l'homme. D'accord. Est-ce que c'est un acte humain ? Pas sûr. Surtout que chez saint Thomas d'Aquin, l'acte humain, c'est l'acte vertueux. Lorsqu'on pose un acte qui est vraiment typique de l'humanité de l'homme, c'est une vertu, dit saint Thomas. Finalement, on pourrait donner les synonymes. Un acte humain, c'est un acte responsable. Un acte de l'homme, c'est un acte irresponsable, mais posé par un homme, d'accord ? Alors, c'est très important parce que on dit souvent que la morale de saint Thomas, c'est une morale de l'acte. Donc, c'est vrai. L'acte, il est bon ou il est mauvais chez saint Thomas. Bon. L'acte est bon ou il est mauvais. Alors, je ne l'ai pas dit cet après-midi, ce qui est une erreur, comme quoi il vaut toujours mieux être là le soir. Quels sont les critères de l'acte bon ? L'acte bon, il doit d'abord avoir, essentiellement d'ailleurs avoir, un objet bon. Je vais prendre, je vais prendre quelque chose de très simple, le crime. Le crime, l'objet de l'acte, c'est tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est toujours un objet mauvais. Donc, un crime ne peut jamais être un acte bon. Pour qualifier un acte, du point de vue moral, il y a l'objet, il y a les circonstances et le but. Les circonstances... La guerre en Ukraine est-elle une guerre juste ? Les circonstances, c'est l'agression russe. Est-il permis de faire la guerre ? Saint Thomas dit, et toute une tradition après lui, il est permis de faire la guerre si on peut espérer la victoire. Ou si il faut protéger nos familles de l'agression. Mais la guerre juste, la notion de la guerre juste a toujours été une controverse éthique ou morale très importante parce que, en principe, tu ne tueras pas. C'est-à-dire que l'objet de l'acte est toujours mauvais. Tuer son prochain, c'est toujours mauvais. L'objet est toujours mauvais, quelles que soient les circonstances et quel que soit le but que je donne à mon action. si je prends un autre genre de une autre question d'éthique, si vous voulez. L'avortement est toujours réprouvé dans la morale catholique, toujours réprouvé parce que les catholiques considèrent que l'objet de l'acte, c'est mettre fin à une vie qui doit advenir. Je sous-pèse mes mots, hein, à une vie qui doit advenir, pas plus, mais pas moins. L'objet qui consiste donc à pratiquer l'avortement est toujours mauvais, quelles que soient les circonstances et quel que soit le but recherché. Je donne l'exemple hein, des Jean-Paul II et de Sarajevo, hein, au moment où des femmes de Sarajevo avaient été violées par des soldats, et on avait posé au pape Jean-Paul II la question, ont-elles le droit d'avorter ? La réponse a été non. Parce que l'objet est mauvais. Ça avait choqué une partie d'opinion parce que, par exemple, les autorités musulmanes considéraient qu'on pouvait avorter dans ces cas-là. Hein? Mais des circonstances bonnes ou une finalité bonne ne rendent jamais un acte bon par lui-même. En principe, puisque vous voyez la question de la guerre juste, est une question qui est quand même assez originale, hein, puisque l'Église, il y a une théorie de la guerre juste dans l'Église, ne serait-ce que la défense de ses proches. Mais les quelques exemples que je vous donne visent à instruire l'idée, enfin ce qu'on appelle l'acte bon. L'acte bon est d'abord bon par son objet, et puis par les conséquences que je veux donner à mon action, et puis par les circonstances. Mais jamais des circonstances ou une finalité bonne ne vont rendre un objet bon. Si l'objet est mauvais, ça s'arrête là. L'acte est mauvais. Donc, encore une fois, pour qu'un acte humain soit bon, c'est-à-dire humain, c'est-à-dire vertueux, la première condition, c'est que l'acte soit bon. C'est que l'objet soit bon. Ça va, ça ? Alors, normalement, ça devrait vous susciter des tonnes de questions, parce que j'ai donné des exemples de controverses colossales, colossales. Vous devriez avoir plein d'idées dans votre tête sur, mais alors, en bioéthique, ça se passe comment ? Début de vie, fin de vie, mais comment c'est possible ? La guerre juste, mais alors, mais Jean-Paul II, bah, je ne sais pas, Jean-Paul II, il est allé voir les dictateurs aussi, il est allé à Cuba, mais il n'est jamais moral d'aller voir un dictateur. L'objet est mauvais, on ne peut pas aller à Cuba, on ne peut pas fréquenter un régime dictatorial. Ah oui, mais il l'a fait pourquoi ? Il l'a fait parce qu'il espérait la libération des prisonniers. Ah tiens ! Donc il y avait une conséquence bonne. Et donc la conséquence bonne a rendu l'objet bon. Ah bon, tiens, donc Jean-Paul II, il peut s'affranchir du magistère, lui. Tiens. Vous voyez ? Mais bon... Alors,
oui, si vous permettez,
allez-y.
Un exemple très simple. L'homicide est bien entendu un acte mauvais par nature.
Oui.
Mais il peut être licite.
Ah oui, alors, la question, c'est intéressant que vous parliez de licéité, parce que la licéité est un concept qui n'est très peu apporté en théologie morale, mais bien entendu qui est très fréquent en droit canon.
Oui.
Hein, puisque, oui, dans le droit de l'Église, là pour le coup, la licéité, c'est dans le droit canon, on distingue habituellement la validité d'un acte de sa licéité. C'est-à-dire, un acte peut être, et en particulier dans les questions liturgiques ou sacramentelles, un acte peut être considéré dans le droit de l'Église comme valide, même s'il est illicite. C'est-à-dire que celui qui le pose il n'est pas permis à celui qui le pose de le poser, mais s'il le pose, son acte sera quand même reconnu valide. Mais il y a d'autres cas où l'acte est effectivement ni licite ni valide. Si aujourd'hui une femme se mettait à vouloir célébrer l'Eucharistie, l'acte qu'elle poserait serait ni licite ni valide. Actuellement, il n'y a pas d'ordination pour les chrétiennes, par exemple. Bon, voilà. Ça pose des questions très importantes. Alors, quand un acte est bon, il est bon d'abord par son objet. D'ailleurs, vous avez cité le mot nature, hein, qui est un mot qui est très important, c'est-à-dire si la nature de l'acte est bon, l'acte est bon. Quand je dis que l'acte est bon, c'est un acte humain, et rappelez-vous, un acte humain, pour saint Thomas, c'est un acte vertueux. L'acte humain définit la vertu. Qu'est-ce qu'une vertu? Une vertu, pour saint Thomas, c'est une disposition fondamentale à agir selon le bien. Quand vous posez un acte humain, vous posez un acte vertueux. La vertu, qu'est-ce qu'une vertu? C'est quoi la vertu? C'est quoi la définition de la vertu? C'est une disposition fondamentale à agir selon le bien. Et une disposition qui se répète. C'est-à-dire, il faut voir la morale, la théologie morale de saint Thomas, comme le comportement d'un athlète. Plus vous vous exercez à faire le bien, plus vous faites le bien. Plus vous agissiez de manière vertueuse, plus vous devenez, si vous voulez, la vertu, c'est une espèce de musculature de la vie morale. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, si vous voulez. L'idée, c'est ça. Plus j'agis selon le bien, saint Thomas dit qu'il y a une espèce, finalement, d'entraînement à agir selon le bien. C'est ce qui a fait dire beaucoup, d'ailleurs, aux commentateurs de saint Thomas, que saint Thomas était un optimiste, que la morale de saint Thomas était une morale optimiste, parce qu'une morale fondée sur, finalement, l'homme a la capacité d'agir selon le bien et de répéter le bien. Plus il fait le bien, plus il se répète et plus il se diffuse. Vous savez, c'est cette formule médiévale qu'on utilise parfois, mais ça vient justement de là. Le bien est diffusif de lui-même. Bonum diffusum sui. Le bien est diffusif de lui-même. Plus vous faites le bien, plus vous en rajoutez, si vous voulez. Donc, c'est une morale, en effet, optimiste. C'est une morale de la capacité de l'homme. L'homme a la capacité rationnelle d'agir librement selon le bien. Donc, oui, c'est une morale optimiste, contrairement à saint Augustin. Là, pour le coup, si vous voulez, saint Augustin, c'est un peu ce que je vous dis, c'est un petit peu des caricatures, parce qu'il ne faut pas trop forcer le trait. Mais saint Augustin a souvent été considéré, et est toujours souvent considéré, comme une morale pessimiste, tandis que saint Thomas est souvent considéré comme une morale optimiste. Bon, les catégories de pessimisme et d'optimiste, il ne faut peut-être pas les durcir, mais pessimiste parce que chez saint Augustin, vous avez tout le thème du péché originel, vous avez tout le thème de la liberté et grâce, culpabilité. Parfois, c'est ça. Les commendateurs ont souvent dit, d'ailleurs, pas seulement parfois, ont souvent dit qu'Augustin était une théologie pessimiste, opposée à la théologie de saint Thomas, qui est une théologie plus optimiste, c'est-à-dire plus fondée sur la capacité de l'homme à agir selon le bien. C'est aussi ce qui a fait dire aux commentateurs que saint Thomas d'Aquin est un moderne, là où saint Augustin est un ancien. Si vous voulez, c'est la querelle des modernes et des, et des classiques. Hein. Saint Thomas, au XIIIe siècle, était considéré comme un moderne. C'était un moderne parce qu'il utilisait la raison, il utilisait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, les philosophes, dans le cadre d'une morale qui avait confiance dans la capacité au bien de la personne humaine, à l'encontre de saint Augustin, considéré comme un peu plus méfiant sur la nature humaine marquée par le péché et par les séquelles du péché. Donc, c'est très important l'idée d'acte humain et d'acte vertueux et de vertu, parce que la morale de Thomas, c'est une morale des vertus. Hein. C'est pas d'abord, vous voyez, une... saint Thomas d'Aquin n'envisage le permis et le défendu, la loi même, si vous voulez, puisque, que par rapport aux vertus. C'est, ce qui compte d'abord, c'est le chemin vertueux. Pour le dire encore autrement, un acte humain ou un acte vertueux, donc vous avez compris que c'est synonyme, complètement synonyme, un acte humain ou un acte vertueux, c'est un pas posé sur le chemin qui nous mène au royaume. C'est un pas posé sur le chemin qui nous mène à la vision béatifique. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, si on reprend les thèmes augustiniens, il y a le chemin, la via, et puis la patrie céleste. Si on reprend l'image d'autres pères de l'Église, nous avons encore l'image, même si on a perdu la ressemblance. Bon, eh bien, comment fait-on pour accélérer notre chemin vers le royaume? Comment fait-on pour être identifié, configuré au Christ dans son royaume? Par notre vie morale. C'est-à-dire que, et qu'est-ce que la vie morale? C'est une vie vertueuse. Et qu'est-ce que la vertu? C'est une disposition à agir selon le bien. Vous vous entraînez à faire le bien, et à chaque fois, vous êtes cet athlète, hein, une espèce, si vous voulez, d'athlète de la foi, qui à chaque acte humain posé, anticipe le royaume qui vient. Vous voyez l'idée? C'est une idée tout à fait eschatologique. Hein. On est bien dans le cadre d'un projet métaphysique proposé à l'homme, où chaque acte humain a une valeur d'éternité. Chaque acte humain anticipe l'éternité, si vous voulez. C'est un pas posé sur le chemin qui fait advenir le royaume. C'est ça le bonheur pour saint Thomas d'Aquin, vous voyez. Donc, quand je dis que c'est une morale du bonheur, il ne faut surtout pas galvauder cette expression. Vous voyez le poids que ça prend, la densité même que prend notre vie morale, humaine. Alors, il y a une autre, je n'ai pas dit ça non plus tout à l'heure, décidément, je suis prolixe le soir, mais là, il y a aussi, quand je dis que saint Thomas est une morale qui est optimiste, il y a également chez saint Thomas une vision beaucoup plus optimiste des passions de l'homme. Hein? Les passions, vous savez, les passions qui nous met, ce qui fait qu'on déborde, qu'on est en colère, qu'on est jaloux, qu'on est... les passions. Hein? Chez les Grecs et chez les pères de l'Église, les passions de l'être humain sont mauvaises. Mauvaises. Hein? Et le but de la vie morale, en particulier chez les stoïciens, comme vous le savez, le but de la vie morale, c'est d'éradiquer les passions. C'est l'indifférence. Les stoïciens sont indifférents, tentent de cultiver l'indifférence par rapport aux passions, par rapport au malheur, parce que les passions sont mauvaises. Donc le but, c'est de maîtriser, enfin d'être indifférent sans doute, mais c'est surtout de maîtriser les passions mauvaises. Le grand thème, n'est-ce pas, même quand on présente à des gamins, à des enfants, à des ados, qu'est-ce que la vie morale chrétienne? On va dire très vite. C'est la maîtrise de soi. Bien, l'idée de maîtrise de soi, c'est une idée grecque, c'est même une idée stoïcienne. C'est la maîtrise des passions parce que les passions sont mauvaises. Ce n'est pas le cas chez saint Thomas. Ça, c'était très moderne aussi au XIIIe siècle. C'est-à-dire que chez saint Thomas, les passions sont neutres. Les passions sont moralement neutres. C'est ce qu'on en fait qui les qualifie. Mais en soi, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Hein? Notre responsabilité commence lorsqu'on les agit. Pour prendre un vocabulaire très contemporain, on pourrait parler d'un agir responsable. Hein? Donc, là aussi, c'était une vision un peu plus optimiste que la vision, surtout de Saint-Augustin, hein, et des Grecs, où il s'agit de dominer les passions pour qu'elles ne dominent pas. Le but de saint Thomas, ce n'est pas d'abord de maîtriser les passions, c'est de développer les vertus. Le but de saint Thomas, ce n'est pas d'abord, c'est un peu grossier, si vous voulez, ce que je dis là, mais si vous voulez, ce n'est pas d'abord d'éviter le péché, c'est de faire le bien. Mais je pense qu'en le disant comme ça, vous voyez la confiance que fait saint Thomas dans la personne humaine. D'abord agir selon le bien. C'est comme ça qu'on peut parler du péché. Mais le péché n'est que le négatif de la vertu. Aucune raison de le mettre au centre.
C'est très moderne.
C'est très moderne. Cela a été parfois critiqué, hein, c'est-à-dire de même que la somme de théologie a été critiquée parce que le Christ arrive en troisième partie, alors oh là là, c'est scandaleux, l'originalité chrétienne est gommée, etc. De même, cette vision optimiste dans la personne humaine a parfois été considérée comme un petit peu trop confiante, si vous voulez. Hein. Alors, il y a un point aussi d'équilibre très important chez saint Thomas, mais qu'on trouvait aussi déjà chez les pères de l'Église. Pour le coup, c'est complètement... ils sont vraiment sur la même logique, la même cohérence. On ne peut pas faire de la morale quand on est chrétien sans parler du don de Dieu ou du salut, si vous voulez. Hein. Parce que je n'arrête pas de vous parler de la morale du bonheur, la morale métaphysique, le bonheur en Dieu. Vous voyez que, aussi bien chez les pères, pour le coup, c'est tout à fait commun, c'est tout à fait partagé, hein. Aussi bien chez les pères que chez saint Thomas d'Aquin, la morale n'a aucun sens en elle-même. Aucun. Les païens peuvent en faire autant. La morale n'a de sens que ordonnée au royaume. Donc, on ne fait jamais de la morale chrétienne pour la morale chrétienne. On fait la morale parce que c'est un chemin vers le salut. Vous voyez le projet que ça représente ? On n'est donc absolument pas dans une approche « Oh là là, la morale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le code. » C'est le permis, c'est le défendu. Je transgresse, je transgresse pas. Je dois pas. Oui, c'est important. C'est important, mais c'est second. C'est second par rapport au projet métaphysique, c'est-à-dire accéder au royaume, dont la clé du royaume étant Jésus-Christ lui-même. Donc, si vous voulez, au bon sens du terme, on pourrait dire que la morale chrétienne, elle est relative. Elle est toujours relative au royaume. Il n'y a aucune raison de l'absolutiser. Il n'y a aucune raison de la séparer du don de Dieu, ou pour le dire autrement, de la grâce, si vous voulez. Là, c'est vraiment très, très important parce que vous voyez, c'est la clé de l'identité et de l'originalité chrétienne lorsqu'on parle de morale. On peut être de très bon moraliste sans être chrétien. Si vous faites de la morale en étant chrétien, la morale est seconde. Elle n'est pas secondaire, hein. Elle est seconde. Si vous voulez, c'est l'évangile de la Samaritaine. Oui, tu as eu cinq maris, mais tu as raison de me dire que tu as eu cinq maris, c'est vrai. Mais je suis celui qui te parle. Donne-moi de cette eau pour que je n'aie plus soif. C'est la source du salut qui compte. Ce n'est pas qu'elle a eu cinq maris. Mais bien sûr, le Christ sait qu'elle a eu cinq maris. Alors, j'insiste là-dessus parce que, quelles que soient les différences entre les pères de l'Église et Thomas d'Aquin, optimiste, pessimisme, ça n'a pas beaucoup d'importance, place de la raison, moins de raison, plus de place à l'écriture, les philosophes, pas de philosophes, enfin bon. Le point commun, c'est on ne peut pas faire de morale en dehors du don de Dieu. Pas possible. Ah oui. Ah oui. Sauf que, quelques dizaines d'années après la mort de saint Thomas d'Aquin, et c'est sur ça que j'arrêterai ce soir, parce que ça vous fera un peu de suspense pour la prochaine fois, je ménage mes effets, si vous voulez, mais quelques dizaines d'années après la mort de saint Thomas d'Aquin, l'équilibre que je viens de décrire, et qui est l'équilibre, on pourrait dire, allez, parfait de la théologie chrétienne. Bon, c'est un petit peu mythique ce que je dis là, mais quand même, l'équilibre plus jamais atteint d'ailleurs à ce point de la théologie chrétienne, quelques dizaines d'années après la mort de saint Thomas, l'équilibre de cette théologie est dépecé, fracturé, fragmenté et ventilé, hein, comme disent les tontons flingueurs, c'est ventilé, hein, par les tout premiers commentateurs de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que cet équilibre entre le don de Dieu et les actes humains, cet équilibre entre la grâce et la liberté de l'homme, s'écroule, enfin s'effrite et finalement s'écroule quelques dizaines d'années après la mort de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la fin du XIIIe siècle, et alors, on verra la prochaine fois, au XIVe siècle. Alors, qu'est-ce qui va se passer, je vous le dirai la prochaine fois, mais on va entrer au XIVe siècle dans une conception de la vie morale du chrétien qui n'a plus rien à voir, qui n'a plus rien à voir avec l'équilibre que je vous ai décrit en vous parlant et des pères de l'Église et de saint Thomas d'Aquin, avec des accentuations très différentes, mais ils partageaient tous le même équilibre. Ah oui, mais ça va changer. Le XIVe siècle va découvrir un nouveau visage de la théologie morale, et c'est un visage assez grimaçant, à mon sens, qui a fait le lit des morales et des éthiques dont nous héritons aujourd'hui. Il y a des éthiques ou des morales hyper sécularisées, hein. C'est très important, vous voyez, parce que lorsqu'on lit aujourd'hui un texte, par exemple du magistère, je vous invite toujours, comme je l'ai suggéré, à aller regarder les notes de bas de page dans les textes du magistère, parce que au fond, les papes écrivent leur encyclique, et puis vous avez des commentateurs là aussi au Vatican qui mettent des notes de bas de page et qui trouvent bien de citer saint Thomas d'Aquin, parce qu'il faut toujours citer saint Thomas d'Aquin. Et ils ont bien raison. De même que dans le corps, pour le coup, des encycliques, vous avez, notamment dans l'encyclique de Jean-Paul II, La splendeur de la vérité, saint Thomas d'Aquin est abondamment cité. D'accord, mais de quel saint Thomas d'Aquin s'agit-il ? S'agit-il du saint Thomas d'Aquin du XIIIe siècle, celui qui respectait parfaitement l'équilibre entre la foi et la raison, celui qui respectait parfaitement l'équilibre entre la grâce et la liberté, ou s'agit-il des formes ultérieures de la morale thomiste qui ont trahi, disons-le sans avoir peur, qui ont trahi saint Thomas, puisque qu'est-ce qu'un maître ? C'est quelqu'un qui est trahi par ses premiers disciples. Il n'y a pas plus infidèle que les premiers disciples vis-à-vis d'un maître. Eh ben, c'est ce qui s'est passé pour saint Thomas. C'est-à-dire que les plus fidèles commentateurs de saint Thomas, quelques dizaines d'années après la mort de saint Thomas, ont abandonné saint Thomas et ont complètement fracturé la somme de théologie. Je vous dirai comment, et je vous dirai du coup ce qu'est devenue la théologie morale dans cette nouvelle théologie éparpillée, et qui finalement met fin à la fois à la morale patristique et à la morale de Thomas d'Aquin lui-même. Et le plus fort, c'est que ce sont des disciples de saint Thomas qui l'ont fait. Et cette fracture-là, elle continue à agir, y compris dans la théologie morale contemporaine, hein, très, 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 très lourdement. On verra en quoi la prochaine fois. Est-ce qu'il y a une question, peut-être terminale, avant de rendre l'antenne ?
Juste une toute petite, précisément à propos de saint Thomas d'Aquin, j'ai lu ici ou là que il n'était plus tout à fait en cours dans tous les milieux.
Oh oui, c'est
est-ce que vous pouvez en dire juste un mot parce que
oui, tout à fait. Moi, je vous fais un cours.
Actuellement.
Oui, moi, je vous fais un cours d'histoire de la théologie morale. Ce cours vous permet de découvrir les grandes notions de la morale catholique encore en cours, pour le coup, aujourd'hui. Mais vous avez parfaitement raison de dire que des théologiens thomistes ou même des théologiens scolastiques, on n'en trouve plus beaucoup. Hein. C'est-à-dire, heureusement, on peut faire de la théologie, même de la théologie morale, sans faire de thomisme, de théologie scolastique, heureusement. Cela dit, saint Thomas reste la référence obligée, même pour ceux qui le critiquent. C'est très rare de s'en passer complètement. Hein. En tout cas, le magistère ne le fait jamais. Et même les théologiens qui... Alors, si, par exemple, vous avez Benoît XVI était beaucoup plus augustinien que thomasien. La grande référence de Benoît XVI, c'était Augustin, pas tellement Thomas, au grand dam d'ailleurs des thomistes d'aujourd'hui. Jean-Paul II citait beaucoup plus saint Thomas, mais c'était un thomisme très tardif et qui est assez loin, à mon avis, du saint Thomas d'origine. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Heureusement, d'ailleurs, hein, heureusement qu'au XXIe siècle, on peut faire de la théologie autrement qu'avec les catégories thomistes. Mais on ne peut pas complètement s'en affranchir parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. C'est une forme de matrice, saint Thomas. Les vertus chrétiennes, les vertus morales chrétiennes, c'est beaucoup saint Thomas qui en a parlé. L'acte humain, donc, c'est beaucoup saint Thomas. Donc, vous voyez, c'est très difficile sauf à faire une espèce de cancel culture dans la théologie catholique elle-même.
Ne pas gommer ça. Du vocabulaire, en quelque sorte.
Oui, bien sûr.
On
ne peut pas s'en passer. On peut prendre un vocabulaire plus contemporain. Si je vous parle, par exemple, de responsabilité. La responsabilité, c'est aujourd'hui, dans les éthiques contemporaines, c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement basique, etc. L'éthique de la responsabilité, on ne la trouve pas formulée comme ça chez saint Thomas, et pourtant, bien sûr que si, on la trouve formulée comme ça, mais pas avec les mêmes mots, pas avec la même structure. Vous voyez, c'est un autre monde. On pourrait même dire qu'il y a une espèce de rupture épistémologique entre le monde du XIIIe siècle et aujourd'hui. C'est normal, c'est sain, S-A-I-N, d'ailleurs peut-être que c'est sain, S-A-I-N-T aussi, hein, mais on ne peut pas gommer, c'est juste pas possible, parce que c'est les grands inspirateurs de la théologie dont nous avons aujourd'hui l'héritage. Qu'on ait envie de reléguer l'héritage, qu'on ait envie, comme au Concile de Trente. Vous savez, au Concile de Trente, quand les pères de Trente sont arrivés au Concile, sur l'autel majeur étaient posés deux livres, la Bible et la Somme de théologie, à égalité. Alors, on n'est plus au Concile de Trente. Mais encore une fois, alors il y a de multiples écoles thomistes, hein, et on est bien d'accord que les écoles thomistes représentent des écoles de théologie parmi d'autres, et que beaucoup de grands théologiens ne sont plus thomistes. Les grands théologiens qui ont, par exemple, influencé ou marqué Vatican II, et certains ont eu, bon, les dominicains, évidemment, avaient une très bonne formation thomiste, mais etc. Les jésuites, si vous prenez de Lubach, c'est plutôt les pères de l'Église, par exemple. Et si vous prenez Ranner, c'est encore autre chose. Là, une des grandes sources de Ranner, c'est plutôt Emmanuel Kant. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà, il est 22h01, merci de votre attention, de votre patience et de votre bienveillance. J'arrête l'enregistrement, je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous dis à très bientôt.
Merci, à bientôt, merci. Bonnes vacances.
Bonsoir.